Accès libre avec Luc Fortin.
Monsieur Jean-Sébastien Laliberté, comment allez-vous?
Je vais fort bien. Monsieur Fortin, comment allez-vous vous-même?
Ça va pas mal correct. 18 novembre, tout le monde, j'espère que de votre côté, ça va bien. Aujourd'hui, petite escale en Mauricie. On va s'intéresser à ce que le CIUS a fait pour aider les personnes avec une déficience intellectuelle qui avait été cavalièrement mise de côté par Travail pour les Patriotes de l'UQTR. Alors, on va voir comment ça s'est passé. Logements sociaux à Montréal, discrimination envers les femmes vivant des situations de handicap. Pourquoi cibler les femmes? Ou en tout cas, pourquoi parle-t-on de discrimination envers les femmes? Ça, je suis curieux. Qu'est-ce qu'on a également? Tiens, il y a Philippe Schnob qui nous attend parce que Ex-Equo l'a invité, lui, président du conseil d'administration de la STM, à prendre le bus en fauteuil roulant. Et il y a la dernière page que j'arrive pas à aller. Ah, les 40 ans de Kéoul. Avec Isabelle Ducharme. Et moi, je vais changer de casque d'écoute. Il griche. Ça va me dire. Il me reste 12 secondes. Salutations, M. Schnob, comment allez-vous?
Très bien, et vous?
Oui, merci. Dernière fois qu'on s'est vu, on prenait un latté pour un balado. Vous me prêtiez votre coude et on avait fait le tour du centre-sud, si on veut, en parlant un petit peu de la STM, du quartier, de votre travail à Radio-Can. Là, aujourd'hui, est-ce que je me trompe ou vous êtes président du conseil d'administration de la STM? Parce que sur ma feuille, c'est marqué président de la STM.
Non, président du conseil.
D'accord.
Ouais.
Ex-Equo vous a invité à prendre un bus en fauteuil roulant. Je suis curieux de voir comment tout ça s'est passé et surtout la rétroaction parce qu'ensuite vous avez été causé un peu avec certains membres d'Ex-Equo qui, eux, vivent la situation quotidiennement. D'abord, le tour d'autobus a pris combien de temps? A duré combien de temps?
Ah, ça n'a pas été très long. On est parti du coin, je vous dirais, Saint-Antoine et Saint-Laurent, puis on est descendu au bureau d'Ex-Equo qui sont au coin d'Épée du parc, là, je dirais, grosso modo. Donc, on n'a pas fait un long tour de bus, mais c'était suffisant pour vivre l'expérience. Je dois dire que j'ai pas la prétention d'avoir une grande expérience,
ouais,
parce que je comprends qu'évidemment, les gens qui sont en fauteuil roulant, c'est une expérience d'une vie. Moi, je l'ai vécu pendant moins de 20 minutes, une heure, là,
ouais,
même moins d'une demi-heure. Donc, je comprends que cette réalité-là que moi, j'ai vécue n'a rien à voir avec celle des gens qui la vivent tous les jours. Cela dit, ça m'a donné l'occasion de voir certains éléments qui, même dans une courte expérience, m'ont permis de comprendre certaines réalités-là qui me sont racontées régulièrement.
C'est ça. Mais vous, personnellement, je présume que vous aviez des a priori. Il y a sûrement eu des confirmations et des surprises.
Ben, d'abord, c'est une chose qui m'a que j'ai trouvé très plaisante, c'est que la rampe s'est déployée.
Oui.
Alors, il semble que ça arrive, que
vous
ça
avez bien
soit
tombé.
Pas le cas.
Puis vous
ça, c'était clairement pas prémédité, là, parce qu'on avait convenu, Marie Turcotte et moi, c'est Marie qui m'avait invité, que je ne mentionnerais pas la direction à quel moment le voyage allait se faire, donc c'était complètement aléatoire. On a pris la ligne 129 qui remontait Saint-Laurent et ensuite du parc plutôt, et donc c'était pas prévu. C'était un bus qui n'était pas un bus récent, donc ça aurait pu arriver, mais c'était pas le cas. Ça aurait pu être une rampe arrière aussi, mais c'était pas le cas. Alors de ce côté-là, ça s'est bien passé. Je dirais que moi, ce que j'ai découvert, là, puis c'est peut-être pas lié à la STM, mais c'est que c'est très difficile de se promener sur nos trottoirs, de monter aux intersections et tout. Là, ça a l'air plus facile que ça l'est quand on est sur... Là, j'avais un fauteuil manuel là, aussi.
Okay. Donc, bon, c'est sûr qu'il y a l'habitude aussi, quand même.
J'imagine que je me serais fait des bras, puis j'aurais moins de difficultés, mais ça m'a surpris. Là,
okay.
Je n'avais pas compris ça. À l'abribus, c'est un autre élément intéressant. J'ai voulu entrer dans l'abribus, puis c'était un vieil abribus qui avait un petit décalage, donc j'ai pas pu entrer dans l'abribus. Donc, si on l'a souligné aux équipes aussi.
Quand vous dites un décalage,
C'est un vieil abribus en béton, là. Donc, il avait probablement travaillé un peu avec le temps, c'est qu'il y avait. C'était pas une marche, là. C'était juste.
Ah, OK, au niveau du.
Il y avait
du terrain, là.
Un petit truc à monter, trop grand pour moi.
OK.
sans l'habitude. Peut-être qu'autrement, j'aurais...
Mais je comprends.
Mais bref, ça, on l'a souligné aux équipes, là, parce que c'est pas normal, puis que cet abribus-là ne soit pas accessible. Là. Donc, c'est un phénomène. Donc, ensuite, dans le bus, pas trop de difficultés à m'installer. C'est peut-être davantage à l'arrivée que ouais. j'ai eu de la difficulté, parce que dans le bus, il y avait pas grand monde quand je l'ai pris. Là. On n'a pas fait exprès pour faire ça à l'heure de pointe, puis je comprends qu'à l'heure de pointe, il y a d'autres réalités. Mais c'est à la sortie que je me suis rendu compte là, que ça crée beaucoup de confusion. Il y a des gens qui essayaient de monter, puis ceux qui le prennent régulièrement là, que savent exactement ce que je veux dire. Là, si on veut sortir en fauteuil roulant et qu'il y a des gens qui entrent qui vont nous empêcher de sortir, là, il faut leur demander de sortir. En tout cas, bref, c'était un peu compliqué. Le chauffeur s'occupait de déployer la rampe, les gens dehors. Et là, il y a un client à l'extérieur qui a compris ce qui se passait puis il a géré la situation avec le chauffeur.
Okay.
Mais je me dis, bon, effectivement, quelqu'un qui fait ça régulièrement, là, ça peut devenir un peu irritant là, d'avoir à expliquer ça à chaque fois. Et c'est une situation, évidemment, si on veut que les gens soient davantage présents dans le réseau régulier, mettons de côté la question des rampes avant ou arrière, là. Si c'est un enjeu à chaque fois de demander aux gens de se pousser, de faire sa place, etc., etc., je comprends que ça puisse devenir un peu irritant. Là,
c'est peut-être de l'éducation, mis à part, ou bien dès que le chauffeur ouvre la porte, de mentionner à un instant, s'il vous plaît, mais c'est le genre de truc qui peut se régler facilement, mais en même temps, ça prend une volonté sociale.
Tout à fait. Mais là, moi, je crois que oui, il y a de l'éducation à faire, vous avez raison. Puis c'est un cercle vicieux, hein, parce que plus on sera nombreux en fauteuil roulant à prendre le bus, plus l'habitude se prendra.
Ouais.
Donc, il faut, c'est l'œuf ou la poule. Là. Donc, il y a cette réalité-là aussi, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à former les clients réguliers aussi, là, du fait que quand quelqu'un arrive en fauteuil roulant, bien, ça implique de laisser sa place, puis de aussi faire de la place à la sortie. Éventuellement, là, on travaille là-dessus, là, pouvoir modifier les messages vocaux dans l'autobus, pour qu'il y ait un message vocal qui dise « S'il vous plaît, veuillez... » Je ne sais pas comment on le formulera, là, mais on travaille là-dessus aussi.
Une fois sur place, c'est-à-dire là, lorsque vous avez rencontré les gens pour discuter un peu comme vous le faites maintenant de votre expérience et surtout de répondre aux questions et aux doléances, qu'est-ce qui est ressorti? Est-ce qu'il y a eu des surprises? Est-ce que... ou c'est plus finalement de rassurer les gens en disant « Je vous ai entendu, j'ai... » vécu, ou en tout cas, j'ai compris certaines choses que vous mentionniez depuis plusieurs mois.
Ben moi, j'ai trouvé très utile la rencontre. On a d'abord fait une présentation. On m'a expliqué qu'on avait fait un petit sondage maison pour la fiabilité des rampes. Et puis, on a évoqué évidemment le fait que parfois la perception que les rampes ne sont pas fonctionnelles dans un plus grand pourcentage de temps que ce qu'on nous dit ici, c'est une réalité que je comprends. Là. Nous, on dit que les rampes sont très, très, très fiables quand on les déploie au centre de transport. Puis parfois, les clients ont une autre perception. Alors, il faut qu'on prenne ça en considération. Donc, il faut trouver peut-être des façons de déployer la rampe plus régulièrement, parce qu'un des enjeux de non-fonctionnement, c'est si elle est coincée, ben, c'est peut-être parce qu'on ne la déploie pas assez souvent.
Mais est-ce que...
Il y a l'œuf ou la poule, s'il n'y a plus de gens au fauteuil dans le réseau, mais on va la déployer aussi plus régulièrement dans le service régulier, et là, ça va faciliter les choses.
Est-ce que le chauffeur est...
au garage.
Je présume que le chauffeur est tenu d'utiliser la rampe avant même de démarrer son premier voyage?
Non, ça ne fait pas partie des vérifications avant le départ le matin. Pour toutes sortes de raisons, là, y a dans les centres de transport, les bus sont cordés, c'est le cas de le dire, là, donc il n'y aurait pas d'espace pour déployer la rampe.
Bon, les bus sont commandés des années d'avance. Je ne sais pas, est-ce que il y a lieu de... On parle de bris ou uniquement de... C'est certains modèles d'autobus qui ne nous offrent pas la rampe avant.
Ça, je ne pourrais pas vous dire là, quel est le motif principal, mais vous savez que maintenant, tous nos bus, les nouveaux bus ont des rampes avant.
Ouais.
Donc, plus on va avancer dans le temps, et je crois là, qu'on a déjà la majorité de nos bus qui ont une rampe avant. Donc, et puis, les 300 bus là, qui vont s'ajouter à la flotte en 2020 auront des rampes avant, bien entendu. Alors, c'est clairement l'intention de n'avoir que des rampes avant à court terme. D'autre part, l'enjeu, c'est surtout le déploiement ou le non-déploiement, parce que là, si la rampe n'est pas déployée en service souvent, ben ça se peut qu'elle se coince avec avec toutes les petites roches qu'on amène avec nous, avec nos bottes qu'on a déjà malheureusement commencé à transporter en cette mi-novembre, là, c'est un peu tôt. Mais bon, tout ça fait en sorte que le déploiement au garage se fait aussi dans le cadre des entretiens. Mais plus il y aura de gens en fauteuil qui prendront le réseau, plus les rampes se déploieront régulièrement. Et donc, à ce moment-là, les facteurs qui font qu'elles restent coincées à l'occasion vont disparaître. Vont s'atténuer. Donc, voilà, c'est une des choses dont on a parlé.
Mais que, bon, le temps avance, des petites choses en vrac, là. J'ai ouï dire que le métro Baudry ne pourra jamais être rendu accessible universellement. Est-ce que je me trompe ou malheureusement c'est une réalité?
Ben, ce que je vous dirais, c'est que c'est pas jamais. C'est peut-être le seul pour lequel la situation est assez problématique.
Okay.
Le métro Baudry est très profond. Il y a une entrée sur Sainte-Catherine, puis le quai est en dessous de Maisonneuve. C'est une station là où la solution est pas encore trouvée. On ne peut pas faire monter un ascenseur directement du quai jusqu'en haut parce que là, il faudrait que l'ascenseur finisse dans un triplex. Alors, c'est un peu complexe.
Okay.
Donc, je ne vous dis pas qu'elle ne sera jamais rendue accessible. Puis, les gens se posent la question. Là, vous êtes en train de faire des travaux à Berry pour qu'elle n'est pas rendue accessible. Mais la question est que la solution technologique est encore à trouver.
Ouais. C'est pour ça que je voulais vous l'entendre dire parce que j'ai lu un article dans l'actualité justement où on décriait que Baudry a des réfections puis on n'a pas... Mais c'est ça, il y a des réalités architecturales. J'ai eu vent également d'une proposition qui avait pour but de faire peut-être tester soit des balises ou des bornes de localisation à l'intérieur de stations de métro. Est-ce que je sais qu'on avait voulu amener cette proposition-là au conseil d'administration? Je ne sais pas, est-ce que ça fait du millage? Est-ce que c'est la première fois que vous en entendez parler?
Vous voulez dire des bornes qui donneraient de l'information sonore?
Oui, c'est ça. Pour, si tu veux aller à Beaugrand, voici l'escalier, des choses comme ça. Avec une application
ça me dit quelque chose, okay. Mais je ne pourrais pas vous dire que ça a été présenté de façon systématique au conseil. Là, c'est plus du côté des gens qui s'occupent de l'accessibilité universelle qu'on a peut-être examiné cette question-là, mais je me souviens qu'on en avait déjà parlé. Là, Marie Turcotte, notamment, nous avait parlé de ça.
Au niveau de l'adaptation du métro, je pense qu'on parle autour de 40 stations qui seraient accessibles autour de 2025. Est-ce que on suit l'échéancier?
Les objectifs là, d'avoir 41 stations accessibles en 2025, c'est toujours la situation. Vous savez qu'on est en la phase 1 de l'accessibilité universelle. La station Jean-Drapeau va bientôt ouvrir. Mm-hmm. Jean-Talon, si c'est pas déjà fait, là, c'est sur le point là, pour aller sur la ligne bleue. Il y a des chantiers dans, je crois, 9 stations actuellement. Il n'y a jamais eu autant de chantiers en cours pour l'accessibilité. Donc, on va de l'avant. Dans certains cas, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on avait anticipé, mais s'il faut mettre un peu plus d'argent pour y arriver, on va le faire parce que notre objectif, c'est d'atteindre nos objectifs le plus comme on s'y est engagé.
Berry-UQAM, les réfections prennent, en tout cas, c'est plus long que prévu. Est-ce qu'on a une date de fin?
Berry-UQAM, il y a eu deux phases. La première phase est terminée, là, on est dans la deuxième phase, puis ça suit les échéanciers.
Ah oui, hein.
Je sais que ça a l'air long, ça a l'air interminable.
Moi, j'ai hâte qu'on réouvre mes murs, là, puis que je puisse retrouver mon chemin vers Longueuil.
Ouais, je vous comprends, mais pour ça, ça fait partie de l'accessibilité universelle, parce que c'est la raison pour laquelle c'est bloqué, parce qu'on travaille sur l'ascenseur qui devrait ouvrir au début, dans la première partie de 2020. Donc, vous allez non seulement y retrouver votre trajet, mais en plus, vous pourrez en faire un bout en ascenseur.
Plus-value. Ouais. Et finalement, ça, c'est juste un petit commentaire. J'avoue avoir un petit peu de malaise. Bon, il y a quelques publicités là, qui passent sur tout.tv, sur YouTube de la STM, et particulièrement celle où vous parlez là, de l'implantation d'ascenseurs et de systèmes de métro parce qu'on veut rendre accessible à tout le monde. J'aurais aimé entendre quelque chose comme « enfin » ou j'ai l'impression que parfois, en tout cas dans cette pub-là, qu'on démontre une proactivité alors que de notre côté, nous, on sent plutôt que la STM est à la remorque du mouvement associatif. Par contre, la STM en balado, j'aime beaucoup. Et s'il peut y avoir d'autres épisodes de produits, Moi, je trouve ça sympathique. On apprend particulièrement les circuits d'autobus. Là. On apprend sur l'histoire des quartiers, sur... Alors ça,
On souligne justement les 100 ans du bus cette semaine. Là, de façon encore plus concrète, c'était le 22 novembre.
Ouais. Et c'est d'ailleurs le dernier épisode qui est sorti, c'était là-dessus.
Je prends votre commentaire pour l'autre élément, mais je rajouterais que ça a pris 50 ans pour rendre 10 stations accessibles. Ouais. On va en rajouter une trentaine en 7 ou 8 ans. Là. Ouais. Je pense qu'on est, moi, je trouve qu'on est proactif, mais je comprends l'impatience. Mm-hmm. Mais moi, je suis très fier d'avoir donné l'impulsion de ça il y a quelques années en disant faudrait qu'on avance. Il y a les fonds fédéraux qui sont disponibles, on va s'en servir. Ouais. Et là, l'idée, c'était de lancer le mouvement pour qu'on puisse plus s'arrêter. Puis je dois vous dire que quand je suis arrivé en poste, c'était pas nécessairement les présentations de la boîte de le faire. Puis on a réussi à l'imposer. C'était essentiel. Puis ça fait partie des grandes fiertés que j'ai là de ma présidence, parce que je peux vraiment dire que c'est moi qui ai dit on arrête de tergiverser, là, on le fait, on va trouver du financement et il faut qu'on règle cette situation-là coûte que coûte.
Merci beaucoup pour ce quart d'heure. Vous êtes un homme occupé, là, je sais pas, merci.
Bonne journée.
Philippe Schlob, président du conseil d'administration de la STM. On écoute Gordon Lightfoot sur Canal M. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong, with chains upon my feet, you know that ghost is me. And I will never be set free as long as I'm a ghost you can't see. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel, the kind the drugstores sell. When you reach the part where the heartaches come, the hero would be me. Heroes often fail. You won't that book again, because the ending's just too hard to take. I'd walk away like a movie star who gets burned in a three-way script. Enter number two. A movie queen to play the scene of bringing all the good things out in me. But for now, love, let's be real. I never thought I could act this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone and I just can't get it back. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong, with chains upon my feet, the story always ends. If you read between the lines, you'll know that quelle voix quand même. Gordon Lightfoot avec If You Can Read My Mind. J'écoutais ça en fin de semaine, puis je me disais, je suis peut-être pas le seul qui va aimer entendre ça. Comment le CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec a aidé les anciens travailleurs du programme de Walmart, ceux qui avaient été mis de côté en avril dernier? On pense surtout là aux personnes déficientes intellectuelles. Ces gens-là, ce sont pour la plupart, peut-être même la totalité, soit 19 personnes, trouver une autre occupation. Jacinthe Loutier est avec moi, elle, au bout du fil, directrice adjointe, service spécifique et spécialisée clientèle adulte. Déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme, toute une carte d'affaires. bonjour, Mme Cloutier, merci d'être là.
Mais bonjour, c'est un plaisir.
Pourquoi surtout, comment le CIUSSS a décidé de s'impliquer après le remerciement par Walmart? Parce que bon, on pourrait penser qu'un centre universitaire de soins de santé ne va pas nécessairement placer du monde puis trouver des jobs.
Bien, nous, en fait, dans notre mission au CIUSSS de la Mauricie-Centre du Québec, mais partout, je dirais, au Québec aussi, on a l'intégration au travail et communautaire des personnes qui ont une DI et un TSA, je vais dire déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme, et par la suite, je vais dire des TSA pour la facilité de comprendre. Donc, nous, on a vraiment une trajectoire là pour intégrer les jeunes au maximum à leur capacité là pour un emploi futur. Donc, ça commence dès l'école.
Ça fait partie des choses de votre mission.
Oui,
je l'ignorais. OK. Comment avez-vous mis en place cette initiative-là? Parce que, bon, je lisais dans un article qu'il y avait 19 personnes qui avaient été mises de côté.
Oui, exactement.
Est-ce que les 19 ont trouvé est-ce qu'il y en a qui sont retournés chez Walmart? Est-ce qu'il y en a qui n'ont rien trouvé?
Bien, il y a une personne qui, suite à un an, qui avait quand même été replacée ailleurs, qui effectivement va retourner chez Walmart, qui est en train de regarder, d'étudier la situation. Okay. Mais sinon, les 18 autres, tout le monde est replacé, en fait, selon leurs intérêts. On a évalué vraiment les compétences, les comportements attendus, les intérêts des personnes avec des outils cliniques reconnus. Puis, on les a fait explorer des nouveaux milieux, là, des visites, on appelle ça des journées carrière, dans différents milieux, que ce soit dans les épiceries, GA, Canadian Tire, Tic Géant, Winners, il y en a même avec l'équipe des Patriotes à l'UQTR. Ouais. Donc, bref, on a eu plusieurs jeunes qui ont exploré d'autres milieux, puis ont eu à eux-mêmes rechoisir un endroit pour, en fait, là, travailler là, pendant la journée.
Bon, donc, on sait que Walmart a fait volte-face après deux semaines environ, deux, trois semaines. Est-ce que à ce moment-là, vous avez envisagé ne plus vous impliquer pensant que les gens vont retourner et on va pouvoir peut-être nous se concentrer sur une autre réalité là, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder?
Bien, nous, vous savez, on est là pour accompagner les personnes au meilleur. Fait que si, tu sais, il faut démontrer de l'ouverture, là, peu importe les raisons qui avaient poussé à le faire de cette manière-là, on a quand même travaillé avec eux par la suite. Puis, dans l'idée, on ne sait pas dans le futur, mettons l'année prochaine, moi, cette année, j'avais 32 des jeunes qui sortaient de l'école qu'on devait placer sur le territoire. L'année d'ensuite, on en a pas mal autour toujours de 30 à Mauricie-Centre du Québec, des jeunes de 21 ans ou moins. Fait que c'est ça qu'il faut démontrer de l'ouverture puis regarder les intérêts des personnes puis tout ça. Fait que si pour certains, ça peut être intéressant à nouveau chez Walmart dans les nouvelles conditions, on va quand même le regarder. T'sais, on n'a pas à prendre de parti pris là, en un sens.
Parce que
là,
je pense qu'il y a eu une bonification des conditions là.
Oui, il y a eu une bonification des conditions, mais il y a en fait plusieurs options, fait qu'elles méritent d'être regardées, tout comme les autres options. Nous autres, vous savez, on a 62 employeurs où on a 300 personnes en stage. On a 35 plateaux qui sont d'autres employeurs encore. Fait qu'en Mauricie-Centre du Québec, faut dire que le vent est au changement, puis les entreprises veulent vraiment s'impliquer avec cette clientèle-là. Possiblement que c'est dû à la pénurie de main-d'œuvre, mais c'est des belles opportunités. Fait que pour nous, Walmart, avec le programme qu'ils ont, s'ils deviennent une opportunité pour les personnes, on va la regarder tout comme les autres.
Si on regarde le verre à moitié plein, Jacinthe Loutier, diriez-vous qu'il y a eu des effets positifs de cette crise-là, et si oui, lesquels?
Ah, tout à fait. Mais c'est, je pense que je viens d'en nommer un. Oui. Pour nous, on est autour de, comme je vous disais, de à peu près 80-90 employeurs là, différents à Maurice-Saint-du-Québec. Fait, je vous dirais qu'en 2018, ce que cette crise-là a fait, là, en fait, chez nous...
Ah, ça fait déjà un an et demi, hein? C'était pas avril dernier, c'était...
Oui.
Ah, mon Dieu,
non,
que ça,
non,
le temps file.
Oui, effectivement.
OK,
oui.
Continuez.
Oui. Alors, ben, ce que ça a créé, c'est un engouement, puis peut-être de l'intérêt à voir comment ces personnes-là peuvent contribuer dans des stages. Puis il y en a pour tous les niveaux là, de capacité. Nous,
donc, vous diriez que ça a peut-être été plus facile. Oui. Lorsque vous avez fait des téléphones, il y a des gens qui ont été plus ouverts, sachant que, ben d'abord, le tollé social, le tollé au niveau relations publiques, ça a été un cauchemar, mais aussi que ben ces gens-là... ont le droit de travailler puis peuvent contribuer. Ça a été plus facile?
Oui, c'est plus facile. Puis il y en a même qui ont pris le téléphone pour nous appeler.
Wow.
Ça, on salue vraiment ça. Là. C'est une très belle opportunité. Puis je pense que plusieurs reportages, les journalistes nous ont beaucoup aidés à démontrer des gens qui se réalisaient au travail puis qui contribuaient à la société.
Ouais.
Fait que ça, pour nous, là, c'est vraiment c'est la visée de nos services. C'est que les gens soient mieux intégrés puis qu'elles puissent éventuellement même avoir un travail de façon autonome.
Savez-vous si cet élan-là a été ressenti un peu partout au Québec? Ou c'est plutôt un phénomène régional parce que c'est de chez vous, on dirait que le tollé a parti?
Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y avait également eu un vent positif. Tu sais, on n'a qu'à penser à M. Lafortune là, qui avait fait des déclarations, mais aussi la Fédération québécoise de l'autisme. Et plusieurs personnes ont pris le micro pour nous aider dans cet élan-là. Ça ne s'est pas passé exactement partout de la même façon, mais on est beaucoup en contact là, grâce au ministère dans des travaux conjoints. Fait que je dirais que oui, dans l'ensemble, c'est positif pour nous puisque ça a mis sur la sellette cette trajectoire d'intégration au travail pour les personnes qui ont une différence et surtout leurs belles compétences peuvent être mises à profit là, dans les entreprises.
En terminant, c'est quoi? C'est un genre CIT? C'est un programme où on paie une partie du salaire puis l'entrepreneur ou en tout cas l'employeur paie l'autre partie?
Oui, il y a différentes façons, mais effectivement, oui, avec ces mots, ça, c'est une façon que vous venez de nommer.
Mm-hmm.
Mais ça, dans la façon dont les programmes sont articulés, une chance, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs modalités parce qu'il y a plusieurs profils différents de personnes.
En tout cas, tant mieux. Un citron qui est devenu une limonade, on aime toujours ça quand ça arrive. Ça n'arrive pas suffisamment souvent. Jacinthe Cloutier, qui est directrice adjointe service spécifique et spécialisé clientèle adulte DITSA au CIUS Montérégie, Centre du Québec. Merci beaucoup d'avoir été là.
Merci à vous.
Christiane s'en vient, petite revue de presse.
Vous écoutez Accès libre.
Christiane Campagnat.
Luc Fortin.
C'est le moment de la revue de presse.
Oui, revue de presse internationale. Tout d'abord, on en avait parlé il y a quelques semaines du fait que malgré une loi sur l'accessibilité en France, ça n'avance pas vite, notamment parce qu'on a affaire à de très vieux bâtiments.
Ouais.
Et justement, il y a eu un cas publicisé récemment. C'est un homme qui a reçu une balle dans la tête par un client ivre il y a 3 ans, un ancien député d'ailleurs. Et depuis...
Client de quoi?
Je crois qu'il tenait, ouais.
Wow.
Mais je pense... C'était pas précisé dans l'article.
Uh-huh.
Mais le procès de son agresseur, présumé, mais bon. Mais qui s'est excusé depuis, donc voilà.
C'est excusé.
A lieu dans un tribunal qui n'est pas accessible. Le système judiciaire s'est rendu compte une semaine avant la tenue du procès que l'homme, la victime, était en fauteuil roulant et ne pourrait accéder seule à la salle d'audience du tribunal de Moulins, puisqu'elle n'est desservie que par un double escalier d'une trentaine de marches. Alors, dans l'urgence, c'est la famille de la victime et leur avocat qui ont trouvé des ambulanciers privés pour aider le monsieur à monter.
Parce que le juge n'a jamais pensé qu'il pouvait peut-être louer une classe dans une école.
Bien, ce qu'on dit,
c'est
qu'en attendant, de manière générale, on tient parfois les procès dans la bibliothèque du palais qui est située au rez-de-chaussée, mais que pour un procès d'assises, ce n'était pas possible. Il y a, donc, en ce moment, il y a un plan de restructuration qui mène à 2022, mais un calendrier précis n'est pas établi.
Tournesol de tournesol.
Au pays de la bureaucratie aussi, bon, en France...
Oui, c'est vrai que c'est connu pour...
C'est pas demain la veille, finalement, l'accessibilité pour tous.
OK. Pauvre monsieur, à bien des niveaux.
Oui.
Colin. OK.
Oui, même au niveau littéral.
Oui, oui.
Une meilleure nouvelle, tiens, pour admirer des monuments architecturaux, ça fait partie de l'expérience touristique classique. Mais jusqu'à récemment, c'est un aspect qui excluait les personnes ayant un handicap visuel. Et on commence tranquillement à régler ce problème avec la production de répliques miniatures. On l'a vu à Montréal avec une reproduction du Stade olympique qu'on peut toucher pour apprécier l'architecture du bâtiment. Et le média My Modern Met s'est penché sur ce nouvel outil éducatif et a parlé à un de ses artisans, un sculpteur allemand qui s'appelle Egbert Breuken. Il fait beaucoup de ses reproductions. Il y avait des exemples dans l'article, particulièrement en Allemagne et en Europe de l'Est, des cathédrales, des grands palais. Il dit qu'il met généralement entre 8 et 10 mois pour achever un modèle. Il commence par prendre de nombreuses photographies. Ensuite, c'est le processus de moulage. Et finalement, il fabrique des sculptures en bronze doré qui sont installées à proximité des sites et qui, en plus, généralement, comprennent une description en braille pour les personnes qui vont visiter.
Ça fait penser à François Pignon.
Oui, mais c'est un peu plus réaliste quand même. Des
ponts avec des cure-dents dans le dîner de cons, pour ceux qui...
Mais bon, je pense que les sculptures en bronze reproduisent un petit peu mieux le monument.
Ouais.
Mais on dit que quand même, c'est une technique qui est plus accessible qu'avant avec l'impression 3D qui permet notamment de produire les moules. Une dernière nouvelle, tiens, côté de l'Australie. En 2008, on avait fait une étude et on a constaté que les peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres avaient 6 fois plus de cécité que les autres Australiens.
Je me questionnais justement sur les peuples insulaires. De où?
Du détroit de Torres.
OK, 6 fois plus, hein?
Oui. C'est principalement dû à des cataractes non diagnostiquées ou non opérées.
Ça, c'est bête. C'est tellement simple à régler.
Oui,
vraiment,
voilà.
Vraiment.
Donc, parce qu'ils devaient attendre 50% plus longtemps avant une intervention chirurgicale, c'est moins fréquent. Là, on dit qu'il y a une grande amélioration depuis qu'un rapport a été produit. Le nombre d'examens de la vue reçus par les Australiens autochtones a presque triplé au cours des 6 dernières années.
Ouais, ça, c'est bien.
Mais la base du problème, c'est l'accès aux soins parce que les Aborigènes, parce qu'ils sont souvent en situation financière précaire, ils fréquentent surtout les hôpitaux publics. Il y a un système à 2 vitesses, si on veut, en Australie. Et donc, les files d'attente pour autant les interventions que les examens menant au diagnostic sont beaucoup plus longues du côté du public que du côté du privé. Okay. Donc, ça soulève, en fait, tout le problème de l'accès et des files d'attente dans les hôpitaux publics d'Australie.
Il y a qu'ici que vous aurez entendu parler des aborigènes du détroit de...
Torres.
Merci. Tu nous as mis en contact, Christiane, avec Dorothée Alexandre, qui, elle, si je regarde ici, est présidente du Conseil des Montréalaises. J'étais curieux à la lecture d'un article que tu m'as envoyé, c'est-à-dire la discrimination des femmes en situation de handicap dans le logement à Montréal. Bonjour Dorothée, comment allez-vous?
Ça va très bien, vous. Merci de me recevoir aujourd'hui.
Ça fait plaisir. La discrimination des femmes en situation de handicap dans le logement montréalais... Pourquoi parle-t-on de la discrimination des femmes en situation de handicap?
Bien, c'est très simple. C'est parce qu'au Conseil des Montréalaises, pour le bien de vos auditeurs et de vos auditrices, nous faisons des recommandations depuis 2004 à la Ville de Montréal en ce qui a trait à l'égalité et la condition féminine. C'est de s'assurer comment est-ce que la Ville de Montréal peut mettre en place des politiques, des règlements, des projets qui tiennent en compte la réalité de toutes les femmes.
Ouais.
Donc, nous, on a décidé de se pencher sur cet enjeu-là parce que c'est un angle mort. Quand on parle de logement, on parle de handicap. Donc, ce sont souvent des enjeux qui ne sont pas abordés. Donc, c'est vraiment cette raison-là qu'on a voulu se pencher, c'est pour cette raison qu'on a voulu se pencher sur cet enjeu pour voir quels sont les obstacles qu'elles vivent et comment est-ce qu'on peut faire des recommandations à la Ville de Montréal pour essayer d'améliorer la qualité de vie de ces femmes-là.
Est-ce que je comprends que si vous étiez présidente du Conseil des Montréalais, au sens large, probablement qu'on aurait parlé de discrimination des Montréalais en situation de handicap ou vraiment il y a une discrimination plus marquée envers les femmes en situation de handicap versus les hommes en situation de handicap?
La question est très pertinente. Nous, nous nous penchons strictement sur la réalité des femmes, puisque nous sommes un groupe, justement, qui nous penchons sur la réalité féministe. Donc, à ce moment-ci, je peux pas vous comparer la réalité des hommes et des femmes. Par contre, on sait que quand on parle de handicap, ça touche toute personne qui est dans cette situation-là, que ce soit des handicaps physiques ou moteurs ou psychiques, etc., que ce soit les enfants, les adultes, etc. Mais dans notre cas, nous, on s'est penché vraiment sur les femmes parce que c'est la mission de notre organisation.
Et c'est là, finalement, où l'entrevue va prendre tout son sens. Vous avez formulé 34 recommandations à la Ville de Montréal. On n'aura pas le temps de parler des 34, mais si je vous demandais peut-être de résumer les grands pans les types de discrimination.
Oui, tout à fait. Donc, au niveau des discriminations, il y a bien sûr l'accès à un logement qui soit accessible, qui soit décent, qui soit également abordable. Ouais. Parce que lorsqu'on parle d'accès aux logements sociaux, on se rend compte que les femmes elles font face à de nombreux obstacles, que ce soit entre autres des files d'attente qui soient très longues, que ce soit également le fait de ne pas pouvoir être dans un quartier qui soit bien desservi, ou même il y a des femmes qui ont des enfants en situation de handicap. Donc encore une fois, ces appartements-là sont vraiment très peu accessibles. Également, je dirais que dans les différents pans que l'on a, j'ai parlé bien sûr de l'insalubrité, de l'instabilité résidentielle et le risque d'itinérance, il y a également les normes d'accessibilité qui sont insuffisantes. Parce qu'au niveau des promoteurs immobiliers privés, on sait qu'il y a le Code de construction du Québec qui est une norme. Donc, nous, ce qu'on demande à la Ville de Montréal, c'est de dépasser ces normes-là et d'avoir un accès universel. Donc, ça peut permettre justement de ne pas avoir juste un minimum pour que ces femmes-là puissent accéder à leur logement facilement.
Parce que les normes ne répondent pas aux critères d'accessibilité universelle. Les normes, c'est plutôt quoi? Pour l'extérieur, pour l'entrée, mais on ne va pas nécessairement s'intéresser à la salle de bain.
Exactement.
Oui, c'est ça. OK.
C'est exactement cela. C'est qu'on peut avoir une personne qui peut accéder à son bloc appartement, mais une fois qu'elle est à l'intérieur, elle ne peut pas tourner en rond dans sa chambre, où elle va justement ne pas pouvoir accéder facilement à sa salle de bain, etc. On a également, entre autres, d'autres aspects qui touchent tout ce qui a trait au financement des logements qui sont financés par la Ville de Montréal. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est que la Ville de Montréal s'assure que 30% des unités qui sont financées par le programme Accès Logis soient destinées à des personnes en situation de handicap, de tous âges, avec des enfants, puis vivant avec différents types d'incapacités. Pourquoi? Parce qu'au sein de la Ville de Montréal, pour mieux comprendre, il y a trois types de programmes qui peuvent aider les familles avec des revenus bas, en situation de précarité. Donc, on a entre autres les programmes HLM, donc ça, ce sont les appartements dits publics. On a le programme de supplément au loyer. Donc ça permet aux personnes justement d'avoir un supplément d'argent pour payer leur revenu parce que leur montant va être à 25% de leur revenu. Et on a également le programme Accès Logis qui aide au développement de logements sociaux et communautaires. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est de s'assurer que ces logements-là, il y en a au moins 30% qui soient réservés pour des personnes qui sont en situation de handicap. Puis là, vous voyez, c'est pas juste les femmes de tous âges, enfants, remarqué, etc. Ouais. Exactement. Ouais.
Est-ce qu'il y a un programme qui existe? Disons, moi, je vais chez un propriétaire, quel qu'il soit, mais je cadre dans, l'obtention là, d'une subvention quelconque et la ville ou le gouvernement assiste dans le paiement du loyer à mon propriétaire. Donc, ce n'est pas un HLM, ce n'est pas une coopérative, mais plutôt que d'attendre qu'il y ait un HLM ou une coopérative qui se libère dans 12 ans, on me dit « reste là où t'es » et on donne 50% du loyer que le propriétaire t'impose. Est-ce que ça existe?
Exactement. Ça existe, puis c'est le programme de supplément au loyer.
Okay.
Je ne pourrais pas vous dire exactement quelle est la mécanique, mais comment ça fonctionne, c'est que comparativement au HLM, où est-ce que la personne paye juste 25% de son revenu, ça c'est régi par la Ville de Montréal, pour le programme de supplément au loyer, la personne va également payer 25% de son revenu et la différence va être couverte par le programme qu'on appelle PSL.
Okay.
Donc ça s'applique pour les gens qui habitent en OSBL, en coop ou en propriété privée. Puis on parle d'environ, à Montréal pour l'instant, on parle de plus de 11 000 ménages qui recourent à ce programme-là.
11 000 ménages à cause de l'enveloppe budgétaire qui est restreinte ou parce qu'on a un besoin de 11 000 ménages?
Je vous dirais que pour l'instant, selon les informations, c'est vraiment c'est le nombre de ménages qui est desservi présentement.
Okay.
J'ai pas l'information précise. J'imagine que c'est à cause du budget.
Oui, on peut présumer qu'il y en a davantage.
Qu'il y a beaucoup, exactement. Puis c'est ce qu'on disait au début. Il y a des longues files d'attente, donc c'est certain qu'il pourrait avoir davantage de besoins.
Oui. D'autres recommandations qui...
Oui, tout à fait. Une autre recommandation qui est importante pour nous, c'est que la Ville de Montréal vraiment s'assoit avec les acteurs et les actrices qui sont concernés, donc qui travaillent dans sur cet enjeu-là, pour initier un projet pilote de guichet unique accessible. Pourquoi? Parce qu'une personne qui recherche un logement accessible ne sait pas vers où se tourner, ne sait pas où se trouvent ces logements-là. Donc, on dit à la Ville, créer une espèce de 3-1-1 qui puisse permettre à une personne en un seul clic de pouvoir accéder facilement à cette information-là.
Ouais.
Puis, ça permet de centraliser quoi? Les offres de logement disponibles, qu'ils soient privés, sociaux, communautaires, abordables. Puis aussi que ça fournit des informations sur leur degré d'accessibilité, d'adaptabilité et d'adaptation. Donc, vous voyez, ces trois termes qui sont importants. Donc, le degré d'accessibilité, c'est à ce moment précis, comment est-ce que cet appartement-là ou ce loyer, cet endroit-là est accessible. D'adaptabilité, c'est comment est-ce qu'il y a un potentiel d'être adapté si une personne veut le faire.
Ah, okay.
Et d'adaptation, bien sûr, c'est pour la personne qui travaille, plutôt qui doit se mouvoir à travers cet appartement-là.
Ouais, une des difficultés, par contre, Dorothy, c'est lorsqu'on parle du potentiel, le temps. Les délais avant que le logement, les réfections aient eu lieu et que le logement devienne accessible pour la personne.
Tout à fait. Puis
est-ce que ça, il y a des recommandations pour peut-être accélérer, parce qu'il y a plein de démarches, il faut que l'ergo aille chez toi, après ça, il y a le pad qui entre en ligne de compte et...
Oui, exactement. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est plus une révision du PAD, justement, okay. Donc le programme d'adaptation de domicile, puis qu'il y ait des rencontres de concertation qui soient rémunérées avec les personnes qui sont concernées afin de les consulter. Parce que souvent, on va consulter des groupes donnés qui vont donner beaucoup de leur savoir. Parce que je veux dire, quand on vit une situation, on devient expert de notre situation. Fait qu'on demande à la Ville de Montréal de réviser le programme d'adaptation de domicile, justement pour faciliter ces enjeux-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que, justement, s'ils n'ont pas accès ou ne reçoivent pas un document XY d'un physiothérapeute ou d'une personne en ergothérapie, mais ça crée des délais supplémentaires. Donc, nous, on demande vraiment une révision systématique du programme au complet.
Selon l'article que j'ai lu, en tout cas, il y avait un émissaire de la ville qui avait, disons, dit tous les bons mots. Que l'on dit dans ces moments-là, disant que bon, on est à l'écoute et on est reconnaissant et c'est important pour nous et bon. Mais au-delà là du fla-fla, est-ce que vous sentez qu'il y a une écoute sérieuse, sincère ou
Oui, tout à fait. On a fait le lancement justement à la suite de l'article.
Oui, le 13.
C'est à la suite de notre lancement la semaine dernière. Il y avait 4 élus qui étaient présents et déjà au moment de lancer notre comité de presse la veille, on nous a donné un rendez-vous le 18 décembre.
Combien d'élus étaient de la gouvernance versus de l'opposition?
De la gouvernance, il y en avait 4. Oui, ils étaient là présents. Et les personnes qui sont responsables, donc que ce soit 2 élus qui sont en arrondissement, puis également M. Baudry, qui est responsable de l'habitation, et Mme Suzy Miron, qui est conseillère associée à la Ville de Montréal en matière de conditions féminines. Donc, ces 4 élus-là étaient présents. On les rencontre le 18 décembre. Notre avis est déposé aujourd'hui au conseil municipal. Donc, ça veut dire que tous les élus, les 103 élus, auront accès à cette information-là. Donc, oui, il y a un grand intérêt, compte tenu que l'angle mort que l'on aborde, il est très important et on va déposer entre autres cet avis-là demain dans le cadre de la consultation sur le racisme et la discrimination systémique également, parce que c'est un problème qui ne touche pas juste un individu, mais qui touche une collectivité.
La Ville est en grande consultation depuis plusieurs années. Là, on consulte. Souhaitons qu'il y ait des résultats concrets. Présidente du Conseil des Montréalaises, Dorothy Allemand, Alexandre, merci beaucoup d'avoir été là.
Merci beaucoup à vous.
Jimmy Bertrand, ensuite Isabelle Ducharme nous parle des 40 ans qui roulent et du tourisme québécois.
Il a neigé hier sur mon pays. Ça m'a fait chaud au cœur de l'apprendre là où je suis. C'est-à-dire à Saint-Nazaire, en Bretagne. Là où dorénavant, j'ai de bons amis. Il a neigé hier sur mon pays. Moi, je n'ai goûté que du vent et de la pluie. Ici, ça semble intriguer les. D'un hiver à peine entamé, où se trouvent mes racines et mes amours. On a beau dire, on a beau faire, on y revient toujours. Il a neigé hier sur. Et j'en parle aux amis. Je leur fais savoir qu'il fait très froid chez nous. Ils grelottent sous leurs chemises et me croient un peu fou.
C'est tiré de À l'abri de la tempête, mon long jeu préféré du duo Jimmy Bertrand. Isabelle Ducharme!
Bonjour!
Oh là là, et toute retenue. Comment allez-vous?
Ça va bien vous-même.
Ouais, merci, c'est gentil. Isabelle qui est présidente du conseil d'administration chez Kéroul. On avait dit qu'on parlerait à quelqu'un de Kéroul il y a deux semaines. Semble-t-il que Isabelle est encore libre, yeah. 40 ans, ça se souligne, mais j'ai envie avant tout que tu me parles d'André Leclerc.
André Leclerc.
Ouais, ouais, ouais. Il a fondé ça en 1979.
Oui. Et si on peut parler de détermination de personnes avec un cran incroyable, c'est définitivement M. Leclerc. Une personne qui est partie d'un besoin personnel, mais qui l'a mis au service des autres. Mmh. Parce que faut bien dire, là, en 1979, l'idée, bien sûr, est née avant ça, mais la fondation de Kéroul s'est officiellement faite en 1979. Mais c'est quand même un jeune homme né avec la paralysie cérébrale qui est né dans le coin du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc un petit coin quand même, là. Donc, déjà, l'accessibilité n'était pas très développée à l'époque, mais encore moins en région. Et de décider de ne pas juste baisser les bras et dire « bon, c'est comme ça, la vie, c'est compliqué », et de savoir se rallier à des... trouver les bons partenaires, en [S2] Ouais. [S1] Fait, pour un développement, ça, c'est vraiment incroyable. [S2] Mmh. [S1] Et d'être là depuis 40 ans aussi, il aurait pu, après avoir eu plusieurs succès, dire « je passe le flambeau » ou « j'en ai assez fait » parce que il faut dire aussi qu'il a travaillé très, très, très fort et il est toujours présent, et toujours actif. Donc, c'est il y a longtemps qu'il aurait pu dire « j'ai fait ma marque
ouais. »,
mais qui a persévéré jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin décembre.
Et ce qui est sympathique également dans cette histoire-là, c'est que on pourrait penser que le tourisme n'est pas nécessairement dans la pyramide de Maslow parmi les besoins essentiels. Je veux dire, en 79, on travaillait encore sur l'implantation d'un système de transport adapté qui avait de l'allure. Il n'y avait aucune station de métro qui était disponible pour les gens en fauteuil roulant. Et il y avait plein de choses. Là. Les normes du bâtiment ne venaient que d'être votées. Ça faisait quoi, 2 ans, tout ça. Alors, on aurait pu dire, bon, mais regarde, le tourisme, là, attendons un peu. Mais pourquoi pas? Et finalement, c'est que tout le monde avance un peu en même temps. Et j'ai envie de dire que je ne sais pas pourquoi, parce que justement, avec ce que je viens de dire, on pourrait penser le contraire. Mais Kéroul est un des organismes qui a réussi à faire avancer sa cause et qui est maintenant de concert avec les organismes réguliers. C'est probablement un des organismes qui est le mieux associé au monde, disons, régulier de sa cause, si tu comprends ce que je veux dire.
André Leclerc va être le premier à vous dire que il s'est buté non seulement au monde du tourisme, mais aussi au monde du handicap, qui n'y croyait pas, qui disait que ce n'était pas le bon cheval de bataille, que justement, il y avait l'enseignement, etc., etc., qui était plus important. Mais je pense que M. Leclerc, tout comme moi, une fois que j'ai eu mon accident, s'est rapidement rendu compte, premièrement, que pour avoir une vie pleine, il faut avoir aussi accès aux loisirs, pas seulement au travail et à l'éducation. Et aussi, je pense, une compréhension rapide qu'en améliorant le tourisme, on améliore aussi la vie des gens de la communauté. Si je travaille fort pour que le transport, les musées, les restaurants, même les activités, toute activité touristique, soient plus accessibles, ben, automatiquement, j'aide aussi les gens de la localité.
Si on prend les plus gros combats, là, que ce soit les victoires et ou les frustrations chez Kéroul en 40 ans, qu'est-ce qui te vient en tête?
Les premières choses, c'est les difficultés, ça a été définitivement de se faire entendre pendant longtemps, que l'industrie ne le voit pas comme quelque chose de lucratif ou quelque chose de pertinent. Le grand bonheur, c'est que on est parti de la route accessible qui s'appelle maintenant le Québec pour tous, qui est un des itinéraires ou des sujets des idées de voyage accessibles au Québec. La première édition, on a eu de la difficulté à embarquer 3 régions.
Ouais. Et c'est quoi, 2006, je pense?
Oui,
c'est
ça, oui, hein? Okay. Et maintenant, on a toutes les régions, mais on a aussi des établissements qui nous appelle pour dire ben moi je vais me bâtir ou moi je vais rénover, qu'est-ce que je peux faire pour assurer que l'accessibilité est la bonne. Ça, c'est des grandes batailles qui sont devenues des victoires. Sinon, si on regarde aussi avec le ministère du Tourisme, où ça fait longtemps qu'on dit les gens veulent se rendre accessibles, les établissements touristiques, mais ils ont pas beaucoup de revenus. Et donc, si vous leur donnez des crédit d'impôt, ça leur donne pas grand-chose parce qu'ils font pas assez d'argent. Alors, on dit depuis longtemps, ça nous prend des subventions. Et c'est ce qu'on a obtenu en 2017, donc 5 millions sur 5 ans. Et on voit, on a déjà atteint le premier million de dépensés parce que, justement, l'industrie dit « Enfin, on voulait se rendre accessible et voilà un outil qui nous permet de le faire. »
Isabelle, qu'est-ce que tu peux faire que tu ne pouvais pas faire? Parce que t'aimes bouger, Bon, restons au Québec, là. Un jour, on fera une entrevue sur l'international. Mais qu'est-ce que tu peux faire que tu ne pouvais pas faire, disons, grâce à Kéroul? Dans le sens, c'est quelque chose qui a changé, puis que maintenant, tu dis, ça, là, je peux le faire.
Bien, déjà, en partant, j'ai été longtemps à vouloir louer un chalet, je ne pouvais pas, parce qu'il n'y en avait pas d'accessible. Ouais. Donc, en ayant développé des outils pour démontrer aux gens comment se rendre accessible sur notre site web. Les entreprises qui veulent se rendre accessible ont vraiment tous les outils là et on peut les accompagner aussi. Donc, déjà, je peux maintenant aller dans différents types d'établissements, dont louer un chalet, dont aller dans des gîtes, des auberges, etc.
Mais mis à part Magog, est-ce qu'il y en a d'autres chalets? Ou on est encore à 2 chalets?
Non, il y en a. Il y en a en Gaspésie, il y en a dans les Laurentides. Il y en a de différents modèles, de différentes grandeurs. Vraiment, ça se développe.
Okay.
tout ce qui est transport aussi, Kérou est très impliqué dans le développement du transport, autant au niveau de toujours présent sur les tables de discussion, autant pour le métro, pour le... Il y a l'accessibilité à l'aéroport, les taxis, etc. Donc, c'est toutes des choses que moi, je vois parce que, bien sûr, je suis de l'interne, là, mais que, bon, peut-être qu'on n'entend pas le nom qui roule, mais on est toujours là pour rappeler, you, vous êtes en train de faire des choses, là, mais vous êtes en train d'oublier l'accessibilité.
Il me semble que tu as déjà loué une yourte. Ça se peut-tu?
Je ne l'ai pas loué. Ça se fait, par contre.
Mais ça se fait, OK.
Oui, ça se fait.
Puis avant, en tout cas, ben, faut dire que les yourtes n'existaient pas là, il y a 40 ans, mais on ne pourrait pas penser qu'au départ, en tout cas, la première yourte, le but était de la rendre accessible.
Pas du tout. Mais le travail avec le CEPAC, la CEPAC est aussi, je vous dirais, un grand bonheur là, dans le terme d'avoir plus que juste le tourisme traditionnel qu'on pense là, comme un musée ou des choses comme ça, mais de aussi sortir en dehors de la boîte et d'aller dans des endroits plus plein air et actifs. Qui sont plus multiples.
Ouais. Bon, je sais pas si c'est parce qu'il est fatigué ou il est allé nous entendre, mais il a fait un gros souper dans mes écouteurs 30 secondes. Alors, je te laisse aller.
T'es dit que je l'aime quand même.
Ben, moi aussi, je l'aime beaucoup. Et ça, je lui dis tous les lundis. On parle bien sûr de M. La Liberté, que je remercie. Merci, Isabelle.
Ça fait plaisir. On se reparlera bientôt.
Ça fait sûrement. On va trouver une raison. Jean-Sébastien?
Oui?
Tu peux pas aller dîner. On a encore une demi-heure à passer ensemble. On va parler balado après la pause.